Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de commencer la semaine avec vous et Culture Média. Au menu, médias et culture au sens large, vous le savez, il y aura le journal des médias de Cyril Lacarrière, le journal de la culture d'Hélène Manarino, une sélection de clips post-confinement, c'est-à-dire uniquement tournés à la maison, et de la cuisine maison là aussi. Nous sommes ensemble pour 1h30 en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre info média, la crise à Presstalis qui n'en finit pas de faire des vagues. Le principal distributeur de presse en France s'est déclaré lundi dernier en cessation de paiement. Comment sauver ce qui peut l'être? Au sein même de l'organisme, deux camps s'opposent. Nous serons avec Louis Dreyfus, président du directoire du groupe Le Monde, mais également président de la coopérative des quotidiens à Presstalis. Nos invités ensuite, Dominique Besnéard, l'agent d'acteur le plus célèbre de France, créateur de la série 10%, présente chaque lundi Place au cinéma sur France 5, dans lequel il nous fait découvrir des pépites méconnues. Et c'est ce soir, il nous dira quelle est la pépite. Place au cinéma, c'est le cas de le dire. Notre invité suivant sera le cinéaste Olivia Sayas. Son dernier film Cuban Network, sorti en janvier, est déjà en VOD. Profitons-en. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au menu ce matin?
Au sommaire, la paix des braves entre les chaînes de télé et le foot français. Cyril Lignac qui prolonge son bail en direct de sa cuisine le jour d'après sur la chaîne LCP et l'Eurovision envers et contre tous.
On commence comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision?
La 1, la 2, la 3, voilà le tiercé d'arrivée de la soirée de dimanche. TF1 est en tête avec la suite d'Hôtel Transylvanie, Hôtel Transylvanie 2. Le film d'animation a été regardé par près de 4,5 millions de téléspectateurs. Derrière, c'est La Guerre des Boutons sur France 2 avec 3 280 000 téléspectateurs. Juste devant France 3 et son sémillant inspecteur Barnaby qui a rassemblé lui 3 227 000 téléspectateurs. Un match serré.
Et puis Cyril, la traditionnelle question du lundi, quel résultat pour les audiences du week-end?
On prend les mêmes et on recommence. Koh-Lanta et The Voice ont toutes les deux remporté le match des audiences de vendredi et samedi soir. TF1 qui réalise donc le triplé du week-end. Les scores de Koh-Lanta sont toujours aussi impressionnants. Vendredi, l'émission a même connu un pic à 7 millions de téléspectateurs, du jamais vu pour le jeu d'aventure depuis 2013. Et puisqu'il n'y a pas que les prime time dans la vie, je vous signale aussi que samedi, l'émission Célèbre d'eau sur France 5 a battu deux record historique, son nombre de téléspectateurs 1 520 000 et sa part d'audience 8,3%. Le moment de tirer notre grand chapeau à Ali Badou et toute l'équipe de son émission.
Culture Média.
Cyril, on commence maintenant ce journal des médias proprement dit avec une taffe de Calumet de la Paix. Ce week-end, la Ligue de football et ses diffuseurs ont enterré la hache de guerre. Que d'images!
Il y avait, oui, effectivement, il y avait de l'eau dans le gaz.
Troisième image.
On creuse le sillon. Il y avait donc, c'était
quatrième
compliqué.
Image.
Entre Canal Plus et beIN Sport et de l'autre, la LFP, la Ligue de foot professionnelle. En cause, le refus des deux chaînes de payer les mensualités prévues pour cause de coronavirus. Problème, selon la Ligue, cette mensualité intégrait aussi des matchs déjà joués, ce que contestaient les diffuseurs. Bref, il a fallu négocier et tout le monde a fini par s'entendre. Si la traite initiale s'élevait à 152 millions d'euros, les deux chaînes ont finalement versé beaucoup moins. Elles ont même bénéficié d'une ristourne, croit savoir le journal L'Équipe. Canal+ a finalement payé 37 millions d'euros et beIN Sport 10 millions, soit un total de 47 millions d'euros. Quant au reste, il faudra que les deux camps continuent leur discussion. Si les championnats reprennent et dans quelles conditions, on devrait en savoir plus à ce sujet demain lors de la présentation du plan de déconfinement par Édouard Philippe.
Et puis il y en a un qui ne va pas se déconfiner, en tout cas pas tout de suite.
Et c'est Cyril Lignac. On dirait bien que Nicolas de Taverneau a décidé d'enfermer son chef dans sa cuisine. Le patron du groupe M6 a lui-même annoncé hier sur Twitter que l'émission Tous en cuisine se poursuivra tout au long du mois de mai. Même sanction donc pour Jérôme Anthony qui devra lui aussi ne pas bouger de chez lui pour continuer à jouer aux apprentis cuistots aux côtés de Cyril Lignac. On a souvent eu l'occasion de dire ici, Tous en cuisine fait partie des réussites de ces dernières semaines. Elle permet à M6 de devancer TF1 sur la case de l'Access Prime Time, ce qui était encore le cas vendredi.
Une nouvelle émission à compter d'aujourd'hui sur LCP, la chaîne parlementaire, pour parler du monde de demain.
On ne sait pas bien à quoi ressemblera l'après 11 mai, mais déjà on commence à se demander ce que seront ces lendemains de confinement. La chaîne LCP, la chaîne de l'Assemblée nationale, lance aujourd'hui le jour d'après une série d'entretiens menée par la journaliste Myriam Ankawa avec l'idée de voir comment chacun imagine les conséquences de cette crise sanitaire mondiale. J'ai demandé à Myriam Ankawa ce qu'il ressort de ces entretiens avec ses invités, s'il y a une attente ou un espoir qu'on retrouve au fil des échanges.
Ce qui ressort de tous ces entretiens, c'est beaucoup d'espoir et finalement pas mal d'optimisme. Alors évidemment, tout ce que j'ai rencontré de philosophes, de scientifiques, de sociologues, d'économistes, nous ont invités dans un premier temps à nous méfier de ces grandes phrases définitives « rien ne sera plus comme avant ». C'est vrai qu'il y a une forme de naïveté hein, à imaginer un monde de l'après qui sera forcément meilleur. Mais en même temps, eh bien, ils sont tous très excités par cet après. Ils sentent bien qu'on est à un moment charnière. Et ce qui ressort vraiment, eh bien, c'est que notre monde, finalement, le monde de l'avant, ben, personne n'en était très satisfait et qu'on peut faire de cette crise une chance.
Parmi les invités, on retrouve Éric Rochant, le créateur-réalisateur du Bureau des Légendes, Jacques Attali ou le physicien et philosophe Étienne Klein. Nous avons demandé à Myriam Ankawa comment elle imaginait, elle, de son côté, la télé d'après-confinement.
La télé du monde d'après, ben je pense qu'elle devrait être un peu plus libre, un peu plus audacieuse et un peu plus généreuse aussi. Parce que ce qu'on voit, c'est que la libre antenne a retrouvé ses lettres de noblesse. On a vu des ministres, le premier ministre, être interpellé par les Français. Et ça marche. Ça veut dire que les téléspectateurs ont envie d'intervenir, envie de participer. Et ils sont extrêmement curieux. Et ça veut dire aussi que les dirigeants politiques, eh bien, ils ont joué le jeu. Et ça, c'est très nouveau. Il faudra en tirer les leçons pour l'après. Ça veut dire qu'au fond, eh ben parfois, au-delà de la qualité technique, de l'image et du son, eh bien, ce qui compte, c'est l'information recoupée, la lutte contre les fake news. Ce qui compte, c'est les intervenants, leurs témoignages, leurs analyses. Et tout ça, c'est très, très intéressant pour l'avenir.
Le jour d'après, ça commence donc aujourd'hui sur LCP. Deux épisodes par jour à 10h30 et 10h45. Premier invité, Frédéric Lechterflack, membre du CNRS, pour évoquer la question de l'éthique médicale.
Et puis pour terminer ce journal, et ça faisait longtemps Cyril, vous allez nous parler de l'Eurovision et de votre nouveau meilleur ami.
Je ne vous refais pas la version longue. On le sait, l'Eurovision a été annulée pour cause de coronavirus et notre candidat, Tom Leb, est confiné chez lui comme tout le monde. Les organisateurs ont annoncé de leur côté une émission spéciale Europe Shine Light à laquelle participeront tous les candidats qui devaient normalement se produire à Rotterdam mi-mai. Mais France 2 a décidé de jouer une autre partition. Le samedi 16 mai, la chaîne proposera bien une émission sur l'Eurovision, mais plutôt en mode Francovision. Stéphane Bern a annoncé qu'il réunirait virtuellement tous les artistes qui ont représenté la France au cours des dernières années, donc bien sûr également Tom Leb qui s'apprêtait à le faire. Quant aux artistes européens, pas grand chose a priori, seuls quelques extraits des clips des autres concurrents passeront sur France 2. Au moins, comme ça, on est sûr qu'ils ne voleront pas la vedette à notre Tom Leb.
Merci mais... Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Culture Média qui continue dans un instant l'info média du jour. On va s'intéresser à nouveau au sort de Prestalis parce que c'est pas fini. Vendredi, si vous nous avez suivis, nous étions avec Frédéric Casgrain, président de la coopérative des magazines de Prestalis. Prestalis, c'est l'organisme qui distribue les journaux en toute la France et on parle peut-être du fait qu'il n'y ait plus de journaux dans les kiosques. Aujourd'hui, la parole est, si j'ose dire, à la partie adverse. Nous serons avec Louis Dreyfus, président de la coopérative des quotidiens à Prestalis et président du groupe Le Monde. Mais d'abord, musique avec Esther Phillips sur Europe.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Que va devenir Prestalis, principal distributeur de la presse en France, une semaine après avoir déposé le bilan et s'être déclaré en cessation de paiement? L'entreprise, qui détient les trois quarts du marché, est très endettée, de l'ordre de 500 à 600 millions d'euros au total. Pour bien comprendre ce qui se joue ici, il faut savoir que Prestalis est actuellement constitué de deux coopératives, une pour la presse quotidienne nationale et une autre pour les magazines, les deux étant détenues par les éditeurs. Son capital est contrôlé à 73% par les magazines et 27% par les quotidiens, une direction bicéphale qui complique la donne. Vendredi, nous recevions dans cette émission Frédéric Casgrain, président de la coopérative des magazines de Prestalis et patron de Marianne. Aujourd'hui, la parole est, si j'ose dire, au camp d'en face. Bonjour Louis Dreyfus.
Bonjour Philippe Vandel.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes président de la coopérative des quotidiens à Prestalis et président du directoire du groupe Le Monde. Alors, on le rappelle, deux plans de sauvetage de Prestalis s'affrontent. Celui défendu par la coopérative des magazines et celui que vous défendez, vous, coopérative des quotidiens. Expliquez-nous quelle différence entre les deux.
Alors, d'abord, si je peux me permettre, je voudrais vous reprendre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait deux camps qui s'opposent.
C'est pour ça que aujourd'hui. J'ai dit si j'ose dire. Ce ne sont pas deux camps.
Je pense que sincèrement, l'ensemble des acteurs de la filière cherchent à trouver le bon modèle pour assurer la distribution de la presse. C'est ça notre ambition commune. Dans un cas, les magazines ont essayé de défendre un plan qui est le leur. Et dans l'autre cas, la direction de Prestalis, en l'espèce Cédric Dugardin, a présenté un plan au conseil d'administration qui a reçu l'approbation des quotidiens. L'idée, c'est qu'il faut absolument qu'on arrive à la fois à baisser les effectifs, parce que les ventes en kiosque baissent de manière probablement régulière. Mais pour autant, il faut qu'on évite absolument l'arrêt de la distribution de la presse.
Bien sûr.
Vous le savez, notamment dans la période qu'on traverse actuellement, il est, à mon avis, vital pour le pays que la presse d'information politique générale, les quotidiens, les hebdomadaires, ceux qui racontent l'actualité, soient distribués. D'autant plus qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une appétence pour cette information. Moi, je regardais ce matin les chiffres de vente en kiosque de nos hebdomadaires ou de quotidiens. Je prends un titre comme Courrier International, un magazine qui, depuis le début du confinement, voit ses ventes augmenter de 60%. Ses ventes en kiosque. Donc, les lecteurs, le public, continuent à aller en kiosque. Ce serait une erreur collective pour les diffuseurs, pour le public, que la presse arrête d'être distribué. Mais donc on essaie de trouver un moyen pour donc en impliquant les organisations syndicales pour voir quel est le futur modèle qui pourrait être, quitte à ce que ce soit un modèle transitoire qui permette à ce secteur de se réformer.
Alors si j'ai bien compris, Louis Dreyfus, vous défendez le maintien d'une structure unique qui continuerait à distribuer aussi bien les journaux quotidiens que la presse magazine. Et en face, si j'ose dire, j'ajoute bien si j'ose dire, enfin deuxième vision, la coopérative des magazines, Frédéric Casgrain et d'autres, et les MLP, les messageries lyonnaises de presse, concurrentes de Prestalis, qui proposent une séparation des magazines et des quotidiens, c'est bien ça?
Alors oui, mais le raisonnement de la presse quotidienne, c'est plus votre volume de vente vont baisser, plus vous avez intérêt à massifier les tirages et les flux. C'est-à-dire que si chacun a sa petite camionnette qui distribue en kiosque, on va pas y arriver. On a intérêt à ce qu'il y ait un camion commun qui embarque les magazines et les quotidiens. Parce que c'est moins onéreux, première chose. Deuxième chose, la direction de Prestalis a débuté depuis plusieurs semaines des négociations compliquées avec les organisations syndicales, qui ont posé deux lignes rouges, qui disent on peut discuter d'une baisse importante des effectifs, et on parle d'une baisse de 60% des effectifs, et vous avez vu qu'à ce jour, il n'y a pas de grève ni d'interruption, donc on est face à des interlocuteurs qui sont particulièrement responsables du côté des organisations syndicales, mais ils nous demandent juste, ils veulent que les effectifs qui restent aient le même employeur, qu'il distribue la presse quotidienne ou la presse magazine, donc je pense qu'on peut les écouter là-dessus, et essayer de voir comment on peut trouver un système qui à la fois correspondent à ce que souhaitent les magazines, c'est des coûts de distribution moins onéreux, et en même temps acceptent quelques-unes des contraintes posées par l'organisation syndicale.
Je schématise là encore, la coopérative des magazines détient 73% de Prestalis, la coopérative des quotidiens que vous présidez, Louis Dreyfus, contrôle 27%. Frédéric Casgrain était à notre micro vendredi, je le rappelle, il préside la coopérative des magazines, et il nous expliquait pourquoi vos deux visions s'affrontent selon lui.
Il y a deux visions, parce que la société Prestalis est basée sur la distribution des quotidiens. Depuis des années, les quotidiens ont fait un choix que je trouve tout à fait légitime de se tourner vers le numérique. Et de plus en plus, les quotidiens se lisent non plus sur le papier, mais de plus en plus sur leur tablette ou vos téléphones. Contrairement à la presse magazine, qui n'a pas fait cette mue numérique, la presse magazine, la variation sur le numérique est autour de 6%, c'est peu. Alors que les quotidiens sont essentiellement lus, majoritairement lu maintenant en numérique. Donc on a un système qui est basé sur la distribution des quotidiens, qui est une distribution qui coûte extrêmement cher. On se retrouve dans une situation maintenant qui est catastrophique. C'est un drame pour tout un secteur d'activité. Et la vision que nous avons dans la presse magazine, c'est de dire on ne peut pas continuer tout seul. Il faut absolument que les deux sociétés de messagerie, les MLP et Prestalis, se rassemblent et puissent former une seule société de messagerie.
Que lui répondez-vous, et notamment sur l'utilisation des messageries par rapport à l'utilisation du numérique ?
Alors, je réponds deux choses. D'abord, même si on a une augmentation très forte de nos ventes en numérique, de l'abonnement numérique, et c'est particulièrement vrai pour Le Monde, qui est de loin le premier éditeur de presse en France pour ses ventes numériques, notre modèle économique continue de reposer massivement sur les ventes en kiosque. Je vais vous donner deux chiffres pour le groupe Le Monde. C'est environ 80 millions de chiffres d'affaires annuels qui dépendent des ventes en kiosque, soit plus de 25% de son chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus de modèle économique sans les ventes en kiosque. Donc on est particulièrement vigilant en la matière. Après, qu'on considère qu'à terme, c'est-à-dire à 3 à 5 ans, l'objectif soit une messagerie commune, on peut l'entendre, mais on ne peut pas. Tout ceci doit se concevoir avec les organisations syndicales. Aujourd'hui, Prestalis, c'est 900 salariés. On parle d'une réduction qui aboutirait à n'en garder que 300 à 350. Ça ne peut pas se faire sans un accord avec les organisations syndicales. Et leur dire, aujourd'hui, l'ensemble des salariés disparaissent au profit des seuls MLP, c'est ce que j'appellerais c'est la pensée magique. Vous ne pouvez pas faire table rase du passé, alors que c'est un passé, une histoire collective dont on est tous comptables. Les magazines qui s'exprimaient vendredi sur votre antenne sont l'actionnaire très majoritaire de Prestalis et sont majoritaires au conseil d'administration. Donc ils ne peuvent pas s'exonérer de cette histoire commune. On peut regretter la structure de coûts, on peut regretter la taille des effectifs, mais il faut vivre avec et essayer de construire un dialogue. Donc nous, ce que nous proposons à la coopérative des quotidiens, c'est d'envisager cette perspective d'une messagerie commune à terme, pas immédiate, mais à terme. On serait ouvert à la présence des MLP au conseil d'administration de la structure commune que nous proposons de créer avec la CDM pour reprendre Prestalis et d'organiser une phase transitoire de 3 à 5 ans, mais d'éviter absolument que la presse, qu'il y ait un arrêt de la distribution de la presse. L'arrêt de la distribution de la presse, ça va conduire d'abord à l'arrêt de l'activité de manière définitive de beaucoup de diffuseurs qui ne peuvent pas se permettre ça, et puis probablement de beaucoup de petits titres. Et en la matière, je rejoins Frédéric Casgrain, il faut qu'on ait une vigilance accrue sur les petits éditeurs.
Ah ben justement.
C'est-à-dire, j'entendais Franck Hennès s'exprimer hier. Ouais. Je comprends.
On va parler. Louis Dreyfus, pardon de vous interrompre. On va marquer une pause. On va entendre Frédéric Casgrain qui, justement, parlait du problème que vous souleviez, celui des petits éditeurs. On va entendre ce que dit Franck Hennès, le patron de SoPresse, SoFoot et tous ces magazines. On continue à parler avec vous du sort de Prestalis juste après une courte pause.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Nous parlons du sort de Prestalis, principal distributeur de la presse en France, qui a déposé son bilan il y a une semaine. Nous sommes avec Louis Dreyfus, qui est le président du directoire du groupe Le Monde et qui s'occupe des magazines, des quotidiens, pardon, au sein de Prestalis. Justement, et vendredi, Frédéric Casgrain, qui est le président de la coopérative des magazines, expliquait que pour lui, ce n'était pas seulement une question d'argent qui opposait deux visions, mais également une différence entre les grands groupes de presse et les éditeurs indépendants. On l'écoute.
Non, il n'y a pas qu'une question d'argent. L'argent rentre en ligne de compte, mais il y a peut-être aussi une vision des choses. Les magazines sont des titres qui sont souvent des titres d'entrepreneurs. La majeure partie des quotidiens nationaux sont appuyés par des grands groupes industriels qui n'ont pas la même vision du temps que nous. Quand vous êtes appuyé par un groupe industriel important, que ce soit un groupe du luxe ou de la téléphonie, vous dites que vous avez l'éternité devant vous. Quand vous êtes un éditeur indépendant qui a créé son propre titre, vous vous dites c'est votre propre argent et vous n'êtes pas sûr de pouvoir vivre le lendemain ou le surlendemain. Donc on n'a pas la même vision du temps. L'organisation de cette messagerie est pour nous une urgence.
Louis Dreyfus, vous comprenez cette urgence ?
Je comprends cette urgence, mais c'est une urgence qu'on partage, puisque l'arrêt de, s'il devait avoir un arrêt brutal de la distribution de la presse parce qu'on rentrait dans un conflit social, je vous le répète, les premières victimes seraient ces petits éditeurs. Ouais. Donc c'est justement pour ça qu'il faut se donner le temps, et le ministère de la Culture et le ministère des Finances sont particulièrement actifs en la matière, pour donner du temps à la négociation. C'est quelques jours qu'on a devant nous pour aboutir à un accord. C'est très important. Juste une petite nuance, j'entends Frédéric Casgrain dire les magazines sont des petits éditeurs et des entrepreneurs. Alors moi je considère qu'il faut que les pouvoirs publics trouvent une réponse ad hoc pour ces petits éditeurs, hein, mais Frédéric Casgrain, qui est salarié de CMI, donc un grand groupe industriel, hein, détenu par Daniel Kretinsky, Prisma Media, qui est le premier client de Prestalis, qui est détenu par Bertelsmann, qui est donc un chiffre d'affaires annuel de 20 milliards d'euros, sont pas tout à fait des petits éditeurs. Donc il faut aussi admettre qu'il y a parmi les magazines des grands acteurs et qu'il faut que eux, avec les quotidiens, trouvent une solution commune en responsabilité avec les organisations syndicales.
D'un mot, Franck Hannaise, patron de Society et de SoFood dont vous parliez, a tweeté « Le président de Prestalis nous prend en otage en faisant croire qu'on est d'accord avec son racket. Aucun éditeur dont c'est le métier ne peut accepter les propositions de ces gens qu'on nous laisse libres de distribuer nos magazines. Comme on l'entend, que lui répondez-vous ?»
Je pense qu'il y a deux sujets différents. Il y a un premier sujet qui est la proposition qui a été faite par la conciliatrice aux 30 premiers éditeurs de Prestalis d'avoir une répartition avec une aide de l'État. Je comprends que sur les 30 premiers éditeurs, une vingtaine ont donné un accord, donc il y a un accord qui est très majoritaire. Et puis il y a cette question des petits éditeurs comme Sopress, donc le groupe fondé par Franck Hannaise. Et donc là, je comprends tout à fait son souhait de pouvoir être libre et de partir au MLP, mais ce souhait, il a déjà été intégré dans le plan de Prestalis, qui présuppose que ces petits éditeurs puissent partir au MLP. Donc ce n'est pas une difficulté.
Merci beaucoup, Louis Dreyfus, président de la coopérative des quotidiens Prestalis, président du directoire du groupe Le Monde, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe. Culture Média continue, il y aura le rappel des titres. Évidemment, à 10h, on va recevoir Dominique Besnéard, qui présente Place au cinéma sur France 5. On va également parler avec lui de 10%, la série dont il est le créateur. Il y aura le journal de la culture, puis le réalisateur Olivia Sayas pour son film Cuban Network qui sort déjà en VOD. Nos indispensables depuis sa cuisine, Laurent Mariotte nous propose des idées de recettes ambiance bistrot aujourd'hui et de la musique. Angèle Châtelier veut nous proposer des clips comme la cuisine de Laurent Mariotte, fait maison.
Philippe Vandel.
Nous sommes justement ensemble jusqu'à 11h. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement avec Dominique Besnéard dans un instant pour son émission Place au cinéma sur France 5. C'est le lundi. Nous sommes lundi. Ça sera ce soir. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino et puis le réalisateur Olivia Sayas. On parlera de son film Cuban Network sorti en janvier et qui sort déjà en VOD. Nos indispensables de la cuisine de bistrot et des clips faits à la maison.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Dominique Besnéard.
Bonjour.
Vous êtes le
m'entendez bien?
Je vous entends absolument parfaitement, un son parfait. Vous êtes le monsieur cinéma de France 5, vous êtes également producteur de cinéma, comédien, avant d'avoir été l'un des plus grands agents artistiques français. Et vous êtes aussi le créateur de la série 10%, qui raconte un peu votre vie et votre carrière. Mais d'abord, chaque lundi, donc ce soir, sur France 5, vous présentez Place au cinéma. Expliquez le principe.
Eh bien, c'est de présenter des films qui ont appartenu au patrimoine, mais pas forcément les films qu'on voit le plus tard, les films de plus vu à la cinémathèque, c'est souvent des films qui ont eu un succès populaire, mais qui ont quand même ce qu'on appelle un fond, ce qu'on appelle la qualité française. Ouais. Et ce soir, nous allons présenter un film complètement disparu, parce que généralement Jacques Deray, c'est bien sûr Borsalino, La Piscine, Le Gang, et on oublie que ses premiers films avaient une toute autre direction. Du reste, ce film, on pense plutôt à Melville. Que Henri Verneuil, vous voyez, c'est parce qu'il y a eu à l'époque Mélodie un sous-sol, et c'est pour ça qu'ils avaient voulu appeler ça Symphonie pour un massacre, parce que Mélodie pour un sous-sol avait cartonné. Mais voilà, mais c'est un film incroyablement tenu. On est plus près d'Hitchcock.
Dominique Besnéard, vous savez quoi? Vous étiez tellement emballé par votre histoire, et avec raison, parce que j'ai vu le film, j'étais scotché, j'ignorais totalement que ce film ait pu exister. On n'a même pas dit le titre. Il s'appelle Symphonie pour un massacre. C'est le premier film avec Jean Rochefort dans un grand rôle. Il est très jeune, il a même pas de moustache, pour tout dire.
Et non, du reste, ça accentue un peu son côté dur, la moustache lui donnait plus de tendresse. Là, il a les lèvres très pincées et c'est un traître magnifique. Bon, enfin, on n'en dira pas plus parce que c'est quand même un jeu, ce film. On se dit, mais comment il va s'en sortir?
Exactement.
Enfin, bon, je vais pas tout raconter parce que c'est une très belle mécanique.
Ouais, on va entendre, sinon la bande-annonce, du moins quelques éléments sonores.
J'ai reçu toute la marchandise à une seule fois.
Maintenant, faut tout lâcher dans le bloc. Moi, ça me dérange pas.
Trouver 100 000 dollars en 48 heures, c'est juste.
C'est vraiment tout le paquet ou rien.
C'est oui ou c'est non.
Georges, depuis le début, je n'aime pas cette affaire.
Il n'y a plus qu'à contrôler réciproquement.
Le corps d'un homme affreusement déchiqueté a été découvert à l'aube, vêtu d'un pyjama, sur le bas-côté.
Et le fric ? Le
fric ? Une trace, il s'est envolé, naturellement.
Attends, cette voix-là, on est tous suspects.
Alors, avant de raconter quelques éléments de l'histoire, évidemment, on ne va pas tout raconter, tellement le suspense est bien construit. Votre ambition, Dominique Besnard, c'est de nous faire découvrir des chefs-d'œuvre méconnus. Pourquoi ce film vous a tant plu ?
Ben ça m'a plu parce que moi j'aime bien des fois retrouver des pépites et que souvent il y a toute une partie du cinéma, notamment de cette époque. On connaît bien sûr les Barbouzes, on connaît tous ces films populaires avec Lino Ventura.
Les Barbouzes, c'est vrai, pardonnez-moi de vous interrompre 30 secondes, Les Barbouzes c'est un peu une parodie de ce genre de film.
Oui, ouais. Tandis que là,
c'est l'original.
Là, c'est l'original. Mais c'est très Hitchcockien, ce film.
Hein. Vraiment.
Vraiment. Et alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que Jacques Deré, qu'on a quelquefois considéré plutôt comme un cinéaste mineur, parce qu'il a fait des gros succès. Quand on fait des gros succès, généralement, on n'a pas forcément la reconnaissance.
On est en France.
Mais je vais vous dire... Ouais. Là, avec ce confinement, j'ai beaucoup vu de films de cette époque, et quelquefois je rage après la nouvelle vague qui a banni tout ce cinéma français, en disant les acteurs sont extraordinaires, il y a des sujets qui sont beaucoup plus ancrés dans la réalité. Franchement, de temps en temps, je m'énerve moi-même en me disant mais qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi Truffaut a été très très insolent par rapport à toute une qualité de film.
Dominique Besnard, c'est incroyable que vous parliez de ça, puisque ça allait être ma question suivante. Je me suis fait la même réflexion. Je me dis, est-ce que la nouvelle vague appelait de manière péjorative le cinéma de papa, sauf que c'est redoutable d'efficacité, et à de très rares exceptions près, comme Truffaut ou Chabrol, les gens de la nouvelle vague auraient été incapables de concocter un scénario aussi bien ficelé.
Non, mais bien sûr. Bon, cela dit, ils étaient assez forts pour trouver les actrices, hein, parce que Françoise Brillon, Anna Karina, Stéphane Audran. Mais sinon, sur le, du reste, tous les acteurs de la nouvelle vague, chez Demi, restent les filles. Dites-moi quel était l'acteur qui jouait avec Jeanne Moreau dans la Baie des Anges. On les a oubliés.
Mais totalement.
Metteurs en scène à femmes.
Et là où
mais
c'est
pas
dingue.
Par histoire.
Et là où c'est dingue, à une exception notable près, j'y pense, j'avais pas prévu qu'on allait parler de ça, c'est que le premier comédien du premier grand film de la nouvelle vague, qui est Belmondo, c'est justement le type avec qui Jacques Deray a fait son plus gros succès, qui était Le Marginal. Le seul qui s'en soit sorti, c'était Belmondo. Vous connaissez le problème des prochains futurs places au cinéma ? Prochain futur, pardon, pour le
PNL. Ah bah oui, mais on ne doit pas trop le dire pour la concurrence. Non, c'est pour ça que je me suis permis de vous appeler, parce que là, on sent qu'on monte, ça fait 4 ans qu'on fait cette émission.
Et Dominique Besnéard, il est en confinement, il est tranquillou, il raconte les coups de fil et tout. Allez-y, racontez comment on fait l'émission. Dominique m'a appelé en me disant, on présente un film vraiment génial et je voudrais bien venir en parler dans ton émission. Et j'ai dit, mais oui, d'accord.
Oui, mais moi je suis transparent et c'est vrai que j'écoute tous les matins, je me dis, mais pourquoi pas nous. Tous les matins, on en parle de la télévision, du reste très bien. Donc, je me suis permis, vu qu'on se connaît depuis assez longtemps.
Hélas.
Et voilà, je suis ravi. Non. Franchement, voyez ce film. Bon, alors, quelquefois, le noir et blanc rebute la jeunesse, mais moi, je suis très ravi d'avoir permis de revoir ce film. Alors, enfin, il n'y a pas que moi, c'est France 5 qui achète les droits. Ouais. Moi, je suis là pour les présenter.
Vous avez eu la chance, que vous êtes un grand cinéphile, de revoir ce film. Moi, j'ai eu la chance de le voir et je peux vous dire que j'ai eu peur tout le long. J'étais scotché par le suspense. On peut dire l'histoire en quelques mots ou pas du tout ? Vous voulez pas la raconter ?
C'est l'histoire de cinq gangsters, gangsters de la grande époque où il y avait le fait de tenir sa parole, le sens de l'honneur, et qui au fur et à mesure il y a un traître parmi les cinq et qui fait toute une machination pour gagner plus d'argent que les autres et ça va mal se finir parce que on oublie toujours le grain de sable qui déraye la bonne mécanique.
Et ce qui est vraiment passionnant dans ce film, c'est que c'est une implacable imagination, mais dans laquelle les deux camps sont très, très, très habiles. Vous restez avec nous, Dominique Besnéard. On a encore plein de questions pour vous. Culture Média continue.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Dominique Besnéard, vous présentez chaque lundi, donc ce soir sur France 5, Place au cinéma. Et ce soir, le film que vous présentez, que vous magnifiez, c'est Symphonie pour un massacre, film de Jacques Deray de 63. Vous êtes également le créateur de la série 10%, qui raconte un peu votre vie, votre carrière. Pour qui n'aurait jamais vu la série, je rappelle le pitch et les coulisses d'une agence de comédiens. Quatre impresarios chargés de décrocher les meilleurs contrats et les meilleurs cachets pour leurs clients, acteurs et actrices. Où en est la saison 4, Dominique Besnéard?
Eh bien, elle est terminée au niveau du montage image. Bon, ouais. Bien sûr, la post-production n'est pas terminée. Donc, dès qu'on va pouvoir reprendre, on pense que fin juillet, elle sera disponible. Elle sera disponible à la chaîne. Ensuite, et c'est à eux de voir quand est-ce qu'on va la programmer. Ouais. Mais moi, je suis très, très ravi de cette quatrième édition. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais on est recadré dans le cinéma. Il y a tous ces problèmes dans l'agence, donc ça veut dire on évoque plein de problèmes qui sont liés au quotidien des agents. Ouais. Et puis surtout, je trouve qu'on a gardé le punch. Franchement, c'est pas facile de tenir quatre saisons non. sur un métier qui jusqu'à maintenant que personne ne connaissait vraiment dans la France profonde. Et ce qui a été bien dans cette saison, c'est la participation des guests qui ont vraiment joué le jeu.
Alors,
et là, je trouve qu'ils vont plus loin que les autres que précédemment.
Alors, je vais prendre mon souffle pour dire que parmi les guests sur les trois précédentes saisons, il y a déjà eu Jean Dujardin, Monica Bellucci, Isabelle Huppert, Béatrice Dalle, Gérard Lanvin, Julien Doré, Fabrice Lucchini, Juliette Binoche, Isabelle Jani, Cécile de France, Laura Smet, Virginie Efira, Ramzi Biedia, Nathalie Baye, Lynn Renaud, Joey Star, j'en oublie. Pour la saison 4, qui seront les guests? Quel nom pouvez-vous nous donner, Dominique Besnéard?
Je vous le dis tous, parce que maintenant, ils ont tourné, donc c'est pas comme quand on ne cède pas les noms quand on n'est pas sûr de les avoir.
Ah, il n'y a pas de tournage donc, secret, alors allez-y.
Alors là, nous avons Franck Dubost,
ouais.
Nous avons Sandrine Kiberlin, nous avons Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Nathalie Baye revient,
ouais.
On a Sigourney Weaver,
wow.
On a Jean Reno, on a Muriel Robin, Mimi Mati qui est excellente, et je le dis, elle s'est mise en abîme d'une façon incroyable.
Ah oui.
Il y a aussi la cerise sur le gâteau. Il y a Parker qui fait un petit guest, le grand champion du monde.
Ah, Tony
qui
Parker.
Qui a beaucoup d'humour. Ouais, Tony Parker.
D'accord.
Et puis, il y en
Vous
a
disiez...
d'autres. Et puis il y a un nouvel. Comment?
Vous disiez, Dominique, que les guests ont encore davantage joué le jeu que précédemment. Qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, qu'est-ce qu'elle fait, Mimi Mati? Parce qu'il faut expliquer. J'explique aux téléspectateurs qui n'ont jamais vu la série, c'est que les guests jouent leur propre rôle.
Ouais. Mimi Mati, elle fait elle joue Mimi Mati qui est absolument pas contente de la façon dont elle est traitée dans cette agence parce qu'elle considère qu'il y a ceux qui ont la carte et ceux qui ne l'ont pas alors qu'elle fait qu'elle a peut-être fait 1 milliard de spectateurs. Donc un jour, elle vient demander ses comptes parce qu'il y a une déstabilisation dans l'agence et elle arrive et elle est très 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 en colère et elle fait un scandale dans l'agence. Mais je vais pas vous dire comment parce que sinon il y aura plus. Mais elle est très très drôle. Elle se moque d'elle-même. Et moi, Mimi, je la connais depuis Bouvard, je la connais depuis toujours. Et je trouve que franchement, il y a un moment donné, il faudrait lui faire jouer autre chose parce que elle peut être à la fois terrible et elle est et drôle. J'ai vraiment. Et puis Muriel Robin aussi est extraordinairement drôle. Et donc voilà, donc on passe à la fois de Sandrine Kiberlin à Charlotte Gainsbourg qui sont un peu les actrices chic et aussi
les actrices populaires.
Franchement, Franck Dubost est très drôle.
Qui font les grands feuilletons sur TF1, qui font les grandes séries sur TF1, on va dire les choses, et pour lesquelles, parfois, le petit monde du cinéma se pince le nez en les croisant. J'ai lu que vous aviez tourné depuis la rentrée jusqu'à la cérémonie des Césars, c'est ça?
Oui, on a tourné à la cérémonie des Césars, mais heureusement, on a tourné l'après-midi. Donc,
pas le soir.
Donc, on n'était pas dans le scandale, on n'a pas pu.
Ah, il n'y aura pas Florence Foresti dans la série.
Ah bah tant mieux, franchement.
Pourquoi tant mieux?
Parce que j'ai trouvé ça insupportable et je préfère pas revenir là-dessus. J'espère que ça n'est qu'un faux pas pour elle, parce que franchement, telle violence verbale et une telle, je veux dire, on peut rire de tout le monde, mais du physique des gens avec un... non, c'est pour moi c'est nauséabond cette cérémonie.
Le physique des gens, je vais prendre la défense de Florence Foresti. Elle a nommé Roman Polanski pour ne pas le citer, Hachoum ou Popol, parce qu'elle ne voulait pas le citer. C'est pour ça. Elle voulait pas prononcer son nom.
Enfin, écoutez, excuse-moi, moi je trouve Hachoum, je sais pas, moi je vais pas revenir là-dessus. Je me suis tellement énervé, je me suis même fâché avec des gens. gens. Donc laissons.
Bon.
Passons à autre chose.
Ouais, on va passer à autre chose. Vous êtes délégué général du Festival du film francophone d'Angoulême. Le festival est prévu du 25 au 30 août. C'est maintenu ou c'est reporté?
Ben, nous, pour le moment, on attend peut-être de début mai, sachant que fin août, j'espère que les choses vont redémarrer, en sachant déjà que ça va pas être le même festival que d'habitude, parce que l'an dernier, on avait fait 47 000 personnes, ouais. En 4 jours, donc là, je sais pas si on va pouvoir faire venir tout le monde dans les salles. Ouais. Et ce qui est dommage, c'est que cette année, on rouvrait un cinéma qui avait été fermé depuis les années 60, et ça permettait d'avoir une salle de plus et surtout une salle emblématique à Angoulême, parce que l'Éperon, tout le monde est allé à l'Éperon, c'est un peu notre Gaumont Palace, vous voyez.
Je vois bien. Attendez, j'ai encore plein de questions, vous êtes tellement bavard, je voulais juste savoir comment vous vivez votre confinement, Dominique Besnéard, où est-ce que vous êtes?
Moi, j'habite rue des Acacias, pas loin de la Fnac des Ternes.
Ouais.
Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que je passe devant la Fnac, je me dis, mais je pourrais acheter ce livre, Donc, voilà. Et non, moi, je suis pas malheureux.
Vous faites quoi de vos journées? Vous rangez? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous ennuyez?
Je range ma tête et je range tous mes livres. Et du reste, ça fait du bien parce que sur mon Facebook, je mets tous les jours des photos.
D'accord.
De moments de ma vie. Enfin, pas personnel, mais du métier. Et je pense que les gens, sont ravis de voir des photos de Marlène Dietrich, de voir des photos de Nathalie Baye, enfin voilà, tout ça, voilà.
Merci beaucoup.
Sinon, ben, je range.
Voilà, merci beaucoup Dominique Besnéard. Donc si vous êtes rue des Acacias, si vous croisez Dominique Besnéard, il habite là. Je rappelle,
et
place au cinéma.
Le soir à 20h, parce qu'il y a de moins en moins de monde aux fenêtres. Hein.
Chaque lundi sur France 5, c'est place au cinéma. Ce soir, Symphonie pour un massacre de Jacques Deray, présenté par Dominique Besnéard. Merci encore d'avoir été avec nous en direct.
Merci
sur Europe 1. Nous, on